l'hebdo des régions, avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Immo pour ce nouveau numéro de l'hebdo des régions. Vous le savez, tous les vendredis de 11h à 11h30, on fait le tour de ce qui se passe sur la planète promotion immobilière, les infos, les actus, les chiffres et des témoignages. Chaque semaine, on fait un focus avec les présidents régionaux et certains acteurs locaux. Pour animer cette émission, je suis en compagnie de Fanny Bourdin. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Bah super. Alors, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de cette édition et surtout, où va-t-on cette semaine ?
Alors, chaque semaine, vous le savez, nous allons nous rendre dans une région de France différente où nous allons interpeller les présidents sur des sujets et des problématiques qui vous concernent. Aujourd'hui, nous serons en direct avec la région Pays de la Loire. Ils seront avec nous dans quelques instants et réagiront en direct aux témoignages et à l'actu. Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Benjamin Hagenauer, bonjour président de la FPI de la région Pays de la Loire. Bonjour Benjamin.
Bonjour Fanny.
Julien Charitour, dirigeant associé fondateur de Qualitim. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes là ?
Je suis là.
Et Nicolas de Saint-Quentin, fondateur et président de Topville Promotion.
Bonjour à tous.
Je vous laisse la main.
Eh bien, on va effectivement, messieurs, s'intéresser à votre belle région. On va faire un panorama dans quelques instants. Et cette émission, on l'a voulu, vous le savez, dans les temps troublés, sur un air un petit peu optimiste. On va s'intéresser à l'innovation, à la résilience. Comment vous, promoteurs, jeunes promoteurs, dans le sens où voilà, vous avez des structures qui sont intéressantes, eh bien, vous vivez cette période très particulière. Comment vous continuez à faire du business ? L'hebdo des régions spéciales Pays de la Loire. C'est parti.
L'hebdo des régions, avec la Fédération des promoteurs immobiliers.
Alors, on va démarrer avec vous, président, jeune président là aussi, hein, puisque élu très récemment. Est-ce que vous pouvez, Barton, nous faire un panorama de la région Pays de la Loire, puisque c'est un territoire très varié, hein, très divers.
Exactement. La région Pays de Loire regroupe 5 départements, la Loire-Atlantique, la Mayenne, la Vendée, la Sarthe et le Maine-et-Loire, avec des dimensions d'agglomération différentes, distinctes, très hétérogènes et qui en font sa richesse. La Chambre régionale des Pays de la Loire, c'est un peu la même chose. Il y a une cinquantaine d'adhérents, promoteurs de taille locale, de taille régionale, des nationaux, des majors également. Et c'est ce qui en fait vraiment la diversité et l'intérêt. Pour ce mandat qui est initié depuis la fin septembre et mon élection, j'ai souhaité notamment reterritorialiser notre action et avoir une action et une vision et une visibilité aussi auprès des élus sur l'ensemble de ces 5 départements. Nous avons commencé et initié d'ailleurs des rencontres avec les élus de certaines métropoles et nous continuerons dans les prochaines semaines.
On verra votre projet stratégique justement, 2020, la feuille de route 2020-2025 dans quelques instants. On continue notre tour de table. Julien Charitour, est-ce que vous pouvez nous présenter votre société et surtout ce qu'on veut avec les auditeurs qui sont, vous le savez, reconfinés pour 15 jours. On veut vibrer un petit peu. Qu'est-ce que vous nous proposez sur quel type de bien vous avez positionné votre structure ?
Alors nous, avec mon associé Guillaume Farcy, on a créé Qualitim avec l'objectif de réaliser des logements dans lesquels on aime vivre. Et donc, on travaille essentiellement sur des bâtiments remarquables en cœur de ville, dans les cœurs de ville, ou sur des bâtiments neufs également, et également sur du front de mer ou sur le littoral, avec des logements qui s'adressent à des résidents principaux ou de la résidence secondaire en grande majorité.
Mais avec, on a vu, hein, Fanny,
en préparant le sujet,
des très belles réalisations vers Pornichet, Pornic, voilà, avec des bâtiments horizon Atlantique.
C'est ça. On a des beaux appartements qui donnent envie de passer un après-confinement ou même un confinement assez, assez sympathique dans les logements qu'on réalise.
À regarder la mer, il n'y a rien de mieux.
C'est ça.
Ça, c'est une excellente idée, d'autant que maintenant que nous aussi, nous sommes condamnés au studio à distance, on pourrait très bien en installer un là, en bord de mer, ça serait idéal. On continue le tour de table. Nicolas de Saint-Quentin, parlez-nous de Topville Promotion.
Alors, Topville Promotion, c'est une jeune société de promotion immobilière qui a été créée en 2017. Je dirais que quelque part, notre ADN, c'est l'intensification des usages. Et puis aussi tout ce qui est insertion urbaine, c'est-à-dire travail de la relation avec le voisinage, avec les acquéreurs et avec les différents acteurs qui interviennent à l'acte de construire. Voilà. Mmh.
Vous allez nous parler de votre lien au SMS, je crois, qui est très important.
Oui, un petit peu le résultat de ce premier confinement où il a fallu imaginer, trouver des nouvelles solutions pour échanger avec, avec tous, mais avec nos clients en particulier. Et finalement, le SMS a pris le pas sur toutes les autres formes et ça fait une communauté.
On va venir dans quelques instants justement aux particularités de ce confinement 1 et ce confinement 2, comment il est vécu. On va le voir. Alors, Président Benjamin Aguenoir, effectivement, une année très particulière. Il y a eu évidemment cet impact de la crise sanitaire. On a aussi les élections municipales qui ont pesé. On sait que c'est une région très dynamique. Pourtant, est-ce que ça a pesé? Quel est l'impact là, au bout de, on arrive en fin d'année. Quel va être l'impact justement de ces différents poids par rapport à une année normale?
Alors, le constat forcément est un peu délicat. Les années électorales sont toujours source d'un ralentissement dans les décisions et c'est bien légitime. La crise sanitaire a accentué un petit peu les difficultés. Malgré tout, je dois dire que le mot résilience correspond bien à mon métier de promoteur et à la région Pays de la Loire, puisque après l'arrêt des chantiers décidé le 16 mars et la stupéfaction qu'on a tous vécue, la majorité des chantiers sur le territoire ont pu redémarrer dès la fin avril. Donc il y a eu 4 à 5 semaines de rodage, de réadaptation, de réinterrogation. Et on a réussi, avec l'accompagnement de tous les partenaires, que ce soit les maîtrises d'œuvre ou les entreprises, à se remettre sur les chantiers, non pas à 100%, mais se remettre rapidement sur les chantiers, très rapidement, dans le respect des règles sanitaires que nous avons apprises, mises en place, avec la priorité qui est la sécurité de tous, notamment sur le chantier. Donc une année qui sera délicate, on pourra en tirer le bilan dans quelques semaines, elle n'est pas tout à fait écoulée, les chiffres seront certainement en retrait selon les territoires, avec des impacts plus ou moins importants. Ce qui nous importe aujourd'hui, et c'est notamment le message que nous souhaitons porter avec Nicolas et Julien, c'est de se dire voyons devant, voyons l'avenir, créons des synergies avec l'ensemble de nos partenaires, avec les collectivités, pour faire en sorte que l'immobilier et la promotion immobilière sur 21 et 22 redressent la barre et qu'on soit très positif, effectivement.
Alors, le fait que vous ayez aussi rapidement rebondi, même si on a eu cette parenthèse, hein, crise sanitaire oblige, si on évalue, vous nous avez dit, voilà, tout a repris quasi normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de casse, il n'y a pas eu de plans sociaux, il n'y a pas eu de structures qui ont véritablement souffert, tout le monde a pu faire le dos rond pendant cette période?
Aujourd'hui, du côté de la promotion, il faut admettre que les choses ne sont pas simples et chacun a vécu cette période avec le maximum d'enthousiasme et aussi un peu de crainte. Toutefois, à ce jour, je crois que nous n'avons pas à dénombrer de casse, pour reprendre votre terme, et de plans sociaux en ce qui concerne la promotion immobilière. Notre attention a été notamment portée auprès des entreprises pour pouvoir assurer le financement des travaux au plus juste et d'accompagner aussi les entreprises qui sont l'outil de la production pour qu'elles aussi puissent maintenir le cap et que leur trésorerie puisse leur permettre de passer cette crise sanitaire dans les meilleures conditions.
Ouais, avec Julien Charitour de Quality et Nicolas de Saint-Quentin de Tocqueville Promotion, on a la chance d'avoir deux témoins, donc jeunes structures, on a dit, hein, moins d'une dizaine d'années tous les deux. Julien, on démarre avec vous. On voudrait avoir votre point de vue aussi sur cette année très particulière. Comment ça s'est passé? Est-ce que pour vous, ça a été un coup de frein? Comment vous avez géré cette période?
Alors, pour nous, c'est automatiquement un gros coup de frein en termes de lancement de projets, puisque ce qui se passe, c'est que ces deux confinements nous imposent des décalages. Premier confinement, on a eu un vrai arrêt des chantiers, donc on a géré l'arrêt et le redémarrage des chantiers. Et ce deuxième confinement, on gère là plutôt un arrêt de nos commercialisations, puisqu'on ne peut plus rencontrer nos clients, on ne peut plus faire de visites. Et nous, en plus, chez Qualitim, on fait des logements pour des résidents principaux, pour des résidents secondaires. Donc, on a besoin de montrer l'emplacement, de montrer ces lieux si particuliers et qui ont une vraie âme. Et donc, on est obligé de décaler. Donc, ça nous impacte énormément sur cet élément-là. Donc, on décale tout. Donc, comme on décale, on n'a pas de rentrée d'honoraires, on va dire. Donc, on a un impact, on va dire, en termes de trésorerie. Donc là, heureusement, on a été accompagné cette année avec le PGE, qui est un élément important pour des structures comme les nôtres. Puisque c'est un décalage. Ce n'est pas de l'activité perdue, c'est du décalage.
Bien sûr. Il faut le souligner d'ailleurs, l'action des banques, comment ça s'est mis en place assez facilement pour vous? Vous n'avez pas eu de difficultés?
Ça s'est mis en place puisque...
Un plan garanti par l'État?
Voilà, quand on a des bons fondamentaux, puisqu'on sait que les projets sont là, la demande est là, et on l'a vu d'ailleurs après ce premier confinement où on pouvait être inquiet parce qu'on s'est dit que, et moi-même le premier, on se disait que la résidence secondaire pourrait être impactée, et on s'aperçoit que ce retour de confinement, les gens, les clients ont eu envie d'acheter des logements de qualité dans lesquels ils se sont aperçus qu'ils pouvaient passer du temps et il fallait qu'ils se sentent bien. Donc nous, c'est vrai qu'on est sur ce créneau-là depuis le début avec une qualité d'usage. Donc on a bien vendu après ce confinement parce que les gens voulaient retrouver ces éléments-là. Donc les fondamentaux sont bons.
Ouais. On l'a vu, hein, Fanny, tout au long des émissions qu'on anime, dans cette période, l'envie post-confinement de verdure, d'espace, ça devient prépondérant. Et quand on voit, c'est vrai que la qualité des choses que vous proposez, ça donne envie effectivement d'en profiter. Par contre, difficile d'imaginer aussi une visite purement virtuelle. Est-ce que vous avez l'impression que là, ça coince un peu, les clients sont prêts, pas prêts?
Pour vendre un logement classique, la visite virtuelle et les outils que l'on a désormais digitaux sont intéressants. Maintenant, pour retranscrire une atmosphère, l'ambiance, le coup de cœur, à un moment donné, quand on achète son logement, pour y vivre, on a envie d'avoir le coup de cœur. Moi, je crois vraiment à la visite sur place et c'est vrai que nous, sur nos lancements, on prévoit des bureaux de vente sur place et les clients viennent sur place, ressentir l'atmosphère, voir la vue. On vend des logements avec des vues mer ou des logements centre-ville dans des bâtiments anciens. Donc, on a besoin de ça. Donc, on a digitalisé le parcours client avec la possibilité de réserver à distance. On a profité du premier confinement pour mettre en place ces éléments-là. Seulement, aujourd'hui, nos lancements qui étaient prévus pendant ce deuxième confinement, on a été obligé de les décaler. Donc, c'est reporté. Alors, c'est vrai que les clients nous sollicitent. Ils ont envie de venir parce qu'ils ont envie de se projeter. On a besoin, on le sent tous, on a besoin de voir le bout du tunnel de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a peu de perspectives et on se bat, la FPI se bat pour essayer d'ouvrir la possibilité de recevoir nos clients dans un contexte sanitaire et des gestes barrières qu'on pourrait mettre en place puisqu'on pourrait le faire.
Alors, on l'a entendu hier avec le Premier ministre, rien, pas de changement malheureusement, en tout cas encore pendant 15 jours, ça nous amènera début décembre. On va s'intéresser également à vous, hein, Nicolas de Saint-Quentin, parce que chez Tocqueville Promotion, vous vivez aussi une année assez exceptionnelle. C'est le premier projet que vous commencez à livrer, que vous avez fait complètement à 100% tout seul.
Oui, après quatre premiers projets en copromotion, celui-ci, la Villa Aleph, est réalisé 100% par Tocqueville. Alors, c'est forcément un anniversaire, mais c'est aussi quelque chose d'important. On n'a pas le droit de se louper sur la première réalisation, on n'a pas le droit de ne pas tenir ses engagements. Et puis financièrement, évidemment, ça a un impact très important. Il faut que ça soit une réussite pour avoir la confiance des différents acteurs pour les prochaines.
Donc vous aussi, comment ça s'est passé? Coup de frein aussi, on imagine. Et puis,
vous en venez à un urbanisme responsable aujourd'hui. Je crois que vous travaillez main dans la main avec tout le monde, même avec les voisins. Enfin, vous pouvez nous expliquer un petit peu?
Oui, ça c'est un petit peu dans l'ADN de Tocqueville, effectivement, où dès la conception, on a associé les voisins, mais aussi la commune de Nantes, en l'occurrence, pour pouvoir travailler sur l'insertion. Aujourd'hui, dans le développement que l'on peut être amené à faire, on a le travail dans ce qu'on appelle le diffus, c'est-à-dire dans des endroits qui sont déjà construits. Et là, il faut arriver sur la pointe des pieds, il faut faire attention à ne pas faire de cet événement, la création d'une nouvelle résidence, un moment anxiogène pour le quartier ou pour les voisins. Donc, on a énormément travaillé cette qualité du lien.
Et je crois que vous avez des anecdotes sur le sujet, d'ailleurs.
Alors, des anecdotes, on en a plusieurs. Je vais vous livrer la dernière, peut-être, il y a 2-3 jours, je passais sur le chantier, je rencontre le poseur de pierre pour les façades, et puis on prend le temps de discuter, parce qu'il fait du bon travail. Et il me dit, vous savez, j'ai été amené à rencontrer vos voisins. Alors, je l'ignorais à ce moment-là. Je lui dis, ah bon, et qu'est-ce qui se dit? Parce qu'on est toujours intéressé. Et là, il me dit, écoutez, ils sont drôlement contents de la qualité de ce que vous construisez, ça valorise le quartier. Et puis, ils sont contents parce que vous êtes accessible, ils ont votre numéro de téléphone. Alors, ce sont des détails, mais je crois que lorsque l'on construit, qu'on livre une résidence telle que celle-ci et que déjà elle est bien accueillie par les avoisinants, on peut parier sur le fait que les futurs occupants seront aussi bien accueillis. Finalement, on crée du lien et du lien de qualité.
Parlons des futurs occupants d'ailleurs, est-ce que tous les appartements sont déjà vendus ?
Oui, là on est à 15 jours de la livraison, alors ça posera des questions de savoir comment ceux qui sont hors département vont venir réceptionner leur appartement avec moi, mais ça, on trouvera la solution. Oui, ils sont tous vendus, alors on a pu faire un certain nombre de choix par visioconférence, pour le choix des matériaux à l'occasion du premier confinement. Alors ça, c'était quand même nouveau. Et puis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour échanger, on a fait des liens SMS et finalement, on est devenu une petite communauté entre nous. Alors, c'est une famille élargie, mais ça fonctionne bien et on a aujourd'hui des clients qui sont très favorables, qui nous ont poussés, soutenus. Vraiment, l'idée d'un projet commun.
On a du mal à imaginer des grands noms de l'immobilier comme ça, recevoir des SMS directement, soit des voisins, soit de leurs clients finaux. Benjamin Aguenoir, on revient à votre mandat là, qui s'ouvre, qui démarre sur ce territoire Pays de la Loire. Donc on le disait, un territoire très très divers puisqu'on a la côte littorale, on a bien sûr cette métropole d'équilibre, Nantes, qui n'en finit plus d'attirer. Il y a une frénésie, une folie nantaise un peu depuis quelques années. Et c'est aussi la Vendée, le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne. Quelle est votre feuille de route justement pour ces prochaines années? Sur quel chantier vous allez travailler prioritairement?
La priorité, je l'évoquais tout à l'heure, ce sera de territorialiser notre action. Pour cela, on a un bureau qui réunit 12 membres, dont une délégation avec chacun des 5 départements couverts. D'ailleurs, Julien Charitour est membre du bureau et à la délégation du département de la Sarthe, sur lequel Qualitim a vocation à œuvrer. Donc l'idée, c'est vraiment de territorialiser, de pouvoir trouver les équilibres entre les territoires et de pouvoir apporter la solution qui n'est jamais la solution unique sur tous les territoires. L'idée d'un métier de promotion, c'est le bon projet au bon endroit. Nicolas de Saint-Quentin vient de le dire, créer un programme immobilier, c'est pas seulement venir couler du béton après avoir obtenu un permis de construire, c'est venir s'insérer dans un cadre parfois existant et c'est venir s'y insérer avec intelligence, avec délicatesse. Pour cela, on travaille avec des architectes, on travaille avec des entreprises, des bureaux d'études, mais aussi avec la collectivité et les riverains. Donc venir associer le territoire.
Il y a quelque chose que vous nous avez signalé, c'est justement cet urbanisme que vous voulez effectivement de plus en plus responsable, on le disait tout à l'heure, avec des règles qu'on a l'habitude d'entendre dans le monde financier, ces fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Vous voulez les appliquer, ces normes, à l'urbanisme?
Tout à fait. L'idée, c'est d'être plus vertueux du point de vue environnemental. Le mot durable est un peu galvaudé, mais voilà, d'avoir un habitat durable et une construction durable, c'est d'avoir une gouvernance qui soit partagée. Les permis de construire, ce sont les élus qui les signent. Et à ce titre, ils sont accompagnés de leurs équipes et des services. Et il faut qu'on soit davantage en lien pour bien comprendre les attentes, accompagner les politiques publiques. Donc ça, c'est un point important. Et puis, le caractère social, c'est que nous faisons travailler pour la Chambre régionale, près de 16 000 emplois indirects. Ce sont autant d'emplois non délocalisables, d'emplois qui permettent aussi la réinsertion dans un certain nombre de cas. Et on a une action sociale assez forte à ce titre.
Ouais, 16 000 collaborateurs, 16 000, 1000 collaborateurs et 16 000 emplois directs ou indirects. Effectivement, c'est énorme. Les témoins, là, nos jeunes promoteurs, est-ce que ce sont des mots qui reviennent? Est-ce qu'il y a une tendance justement au durable, à l'environnemental? Alors, on sait que vous avez des normes drastiques maintenant. Vous êtes évidemment soumis et vous les respectez. Est-ce qu'il y a aussi de la part des clients finaux une demande justement, outre ce qu'on a cité, d'avoir des logements plus verts, entre guillemets? Julien?
C'est une demande qui est dans l'air du temps, donc c'est vrai que nous on intervient sur le bâti, comme le disait Benjamin, on n'est pas là que pour couler du béton, on est là aussi pour créer des lieux de vie, donc on intervient sur le bâti et on peut travailler sur cet environnement durable, mais aussi tout ce qui va à côté derrière le logement, puisqu'on s'aperçoit que le lien aussi social entre les gens est de plus en plus important. Donc chez nous, on travaille aussi sur les parties communes, sur les espaces extérieurs communs où les gens demain se retrouvent et créent de nouvelles communautés au sein des résidences ou au sein des projets. C'est des éléments qui sont importants aussi également.
Nicolas, on vous
écoute. Oui, même constat, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des acquéreurs qui font éminemment confiance au système réglementaire qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire qu'ils se posent pas trop la question des normes ou des détails. En revanche, en matière de qualité d'usage, d'extension, balcon, terrasse, parties communes, là, ils sont beaucoup plus regardants. On sent bien que le premier confinement est passé par là, d'avoir la chance de pouvoir profiter d'un petit jardin collectif. Ça revient au cœur des préoccupations pour avoir finalement une extension des surfaces habitables avec une vie en communauté, même si pour l'instant, elle est un petit peu mise sous l'été noir.
D'ailleurs, par rapport à la crise, les promoteurs, on sait tous que tout le monde travaille, que les travaux ne se sont pas arrêtés. Est-ce qu'il y a un surcoût de la crise, Benjamin ? Est-ce que ça coûte cher ? Comment vous avez géré ça avec les gens qui travaillent pour vous ?
Aujourd'hui, il y a deux éléments. Il y a les coûts directs, qui sont les coûts liés depuis le mois d'avril à la prise des chantiers à la réponse sanitaire, c'est-à-dire les masques, le gel hydroalcoolique, le sens de circulation, l'adaptation des bases vie. Et puis, qu'on pourrait quantifier, j'ai pas de chiffres à vous donner, mais on pourrait quantifier par homme, par personne sur chantier, par jour ou par semaine, par mois. Ce qui est plus difficile à quantifier, et ce qui sera intéressant de suivre, quelle que soit la taille de l'entreprise de promotion immobilière, c'est les coûts induits. C'est, je vous l'ai dit, une reprise des chantiers fin avril pour la grande majorité, mais pas à 100%. Et quand on ne prend pas à 100%, forcément, ça peut nous inviter à décaler sur la suite. Donc ça, c'est un coût parce que c'est plus de temps pour chacun sur le chantier, pour l'équipe de maîtrise d'œuvre, pour nous, pour nos collaborateurs. Et puis, c'est aussi, on l'a évoqué, Julien l'a évoqué, ce sont des clients qui sont un peu moins présents sur cette fin d'année, même s'il y a eu un rebond d'activité à la sortie du premier confinement au printemps, au mois de mai-juin. Donc, le coût, forcément, il sera important. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être sur le pont, d'être tous solidaires. C'est ce qu'on essaye de faire, y compris au sein de l'AFPI, entre nos adhérents. Nous sommes concurrents sur les acquisitions foncières. Pour autant, nous sommes partenaires sur le reste du montage, sur les échanges de bons procédés, sur les échanges d'équipes qui fonctionnent. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on puisse continuer à mettre en avant pour faire en sorte que les plans sociaux qui, à ma connaissance, n'existent pas aujourd'hui, n'existent pas en 2021.
On vous le souhaite en tout cas. Julien Charitour, une réaction à ce que vient de dire votre président.
Je suis en phase avec mon président, ça tombe bien. Et puis, je vais dire que... Encore plus pour nous, on va dire jeunes promoteurs, parce que qui dit jeunes promoteurs dit structure, on va dire plus légère. Nous, on est deux associés, une équipe de 7-8 personnes. Nicolas, il est seul associé, et on s'aperçoit que dans cette crise, bon, on a connu des crises dans l'immobilier précédemment, mais ça, c'est une crise nouvelle. On la connaissait pas. On a un tunnel, comme on le dit, pour lequel on ne voit pas forcément le bout. Et donc, pour nous, jeunes promoteurs, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir la bonne information pour prendre la bonne décision. Donc, on s'appuie énormément sur la FPI, on échange entre nous, et c'est vrai qu'on est concurrents de temps en temps, mais surtout confrères. Et au sein de la FPI, c'est un élément important entre nous, jeunes promoteurs et promoteur classique, on va dire. Chez nous, on n'a pas de service support, on n'est pas un grand groupe avec plusieurs agences qui peuvent avoir une certaine transversalité. Donc la transversalité, il faut qu'on la retrouve, peut-être entre confrères. On va chercher l'expertise chez nos partenaires, les experts comptables, les avocats. Mais ça, on va dire que cette crise resserre des liens peut-être entre les opérateurs, puisqu'on a tous les mêmes contraintes. Et puis, on réfléchit même, j'en ai parlé avec Nicolas, on pourrait même créer des clubs de jeunes promoteurs au sein de la FPI ou à côté, on va dire, pour se fédérer. Et puis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes promoteurs aujourd'hui, il y en a certains qui arrivent au sein de la FPI, on voit Opus, on voit Co-Living Factory, on voit César, qui font des super projets, et puis d'autres comme Cinque, comme Cap Développement, qui sont pas encore à l'FPI, mais qu'on pourrait fédérer pour partager des bonnes pratiques, je dirais, parce que dans ces temps, on a besoin de serrer les coudes et puis de marcher ensemble, quoi. C'est un élément important.
On retient dans ce que vous avez dit, donc information, et vous ont complimenté la FPI régionale, une certaine solidarité et agilité aussi. Alors, en plus, je pense que vous touchez vraiment du doigt quelque chose d'essentiel, d'autant que, alors je sais pour vous Julien, je pense que c'est pareil peut-être pour Nicolas, vous connaissez bien ces grands groupes, vous y avez travaillé, etc. Aujourd'hui, d'avoir sa structure, c'est aussi... de pouvoir réagir de beaucoup plus rapidement s'il arrive justement une crise comme on vient de connaître.
Oui, tout à fait, c'est essentiel. Alors, vous avez vu, que ce soit Benjamin ou Julien, ils ont pointé la qualité du lien, c'est-à-dire que lorsque vous êtes jeune promoteur ou que vous n'êtes pas forcément avec des services support, vous êtes bien content de trouver régulièrement l'AFPI pour vous donner un certain nombre d'informations. Vous êtes bien content aussi de pouvoir échanger entre nous, avec les gros, avec les acteurs nationaux, mais aussi avec des structures plus petites comme celle de Julien, parce qu'on a des problématiques communes et puis qu'à plusieurs, on est souvent plus intelligent. Et puis, le lien aussi, Benjamin l'a pointé, avec les entrepreneurs, il fallait du courage mi-avril, fin avril, pour faire redémarrer les chantiers avec les compagnons. Et ça, c'est vraiment ça que nous a apporté finalement le premier confinement et puis qui se confirme avec le second. C'est la place du lien qui est de nouveau au centre de nos projets pour pouvoir redémarrer. Alors,
on a pris le temps de nouer des relations et ce temps, finalement, on aurait pu penser que certains allaient en perdre. Vous, Nicolas, c'était l'inverse qui s'est passé. Expliquez-nous.
Oui, c'est vrai. En fait, j'ai pu redémarrer le chantier de la Villa Aleph quasiment avant la mi-avril. C'est-à-dire que j'ai perdu peut-être 3 semaines à ce moment-là. Mais en réalité, à la fin juin, j'avais déjà récupéré tout le retard avec les entrepreneurs. Et finalement, je vais livrer là pratiquement avec 1 mois et demi d'avance sur le planning d'origine. Alors ça a été possible parce que tout le monde a joué le jeu. Ça a été possible probablement aussi parce que c'était dans un bon moment de la phase de construction où j'avais peu d'intervenants différents sur le chantier. Mais toujours est-il que les acquéreurs, pour le coup, parce qu'ils sont quand même toujours au centre du projet, je peux vous dire qu'ils sont bien contents et ça donne de la crédibilité à une jeune structure que de tenir ses engagements.
Ouais, chapeau, hein, parce que dans ces temps, à finir avec 1 mois d'avance, c'est pas mal. On a entendu justement cette espèce d'interaction, de solidarité, Président Benjamin Hagenauer. On a l'impression que comme une forêt qui va bien, il y a les baobabs, peut-être les petits arbustes, une flore qui se développe. L'écosystème, c'est important. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez développer, c'est-à-dire ce foisonnement peut-être de jeunes pousses, pour dire de start-up de la promotion immobilière, Julien en a cité quelques-unes. Est-ce que c'est sur la feuille de route également de consolider justement ces jeunes pousses et les encourager?
Bien évidemment, je vous l'ai dit, hein, notre chambre est riche d'opérateurs très, très différents dans leur structure, dans leur conception et puis aussi dans les usages. Je pense notamment à Colling Factory que Julien a évoqué, qui travaille davantage sur la co-résidence, sur la colocation réinventée. Donc, il y a non seulement l'empreinte environnementale sur laquelle tout le monde travaille à être davantage responsable et la réglementation nous y invite et nous prendrons toutes les mesures pour répondre favorablement. Mais il y a aussi beaucoup les usages. Chaque cas est unique, chaque logement est unique, chaque ménage a un besoin spécifique et c'est la richesse de notre offre qui fait que chacun va pouvoir trouver le logement qui lui convient pour lui, pour y habiter, pour investir et pour mettre sur le marché un logement qui permettra de loger des familles, que ce soit du collectif en centre-ville, du collectif dans les régions un peu plus éloignées, de la maison individuelle groupée également. Donc, les jeunes ménages, les jeunes promoteurs et notamment ce que disait Julien Charretour chez Kaitim, hein, c'est aussi une niche précise de réinventer les bâtiments, de réhabiliter, de faire des opérations qu'on pourrait qualifier de grand standing. Donc c'est un axe dans lequel Quel'Dim a réussi à s'engouffrer, qui en fait son originalité. Et puis, je pense que c'est par l'innovation qu'on continuera à s'en sortir. Et les jeunes pousses, comme vous les avez qualifiées, sont riches de créativité. Donc, on continuera à les accompagner. La FPI France a fait un formidable travail pendant cette première période de confinement. Elle réédite avec des newsletters quotidiennes depuis 15 jours. Et c'est ensemble qu'on fera un urbanisme exemplaire et durable. Exactement.
Voilà, newsletter et puis prise de parole hein, à la radio. On est ravis de s'associer à ce projet, à vous donner la parole, à aller sur le terrain. Alors, évidemment, Fanny, on préfère y aller.
Très bon
en direct.
Mot de la fin, je trouve, du président quand même. Il faut quand même le souligner.
Voilà, en tout cas, on est ravis de vous accompagner. On a compris hein, ces maîtres mots, résilience, innovation, adaptation. Hein. Un grand merci à l'ensemble de nos invités. Julien Charitour, dirigeant associé fondateur de Qualiteam, Nicolas de Saint-Quentin, président fondateur de Tocqueville Promotion. Et puis Benjamin Hagenauer, merci à vous, président de la FPI Pays de la Loire. Merci Fanny, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous pouvez retrouver bien sûr ce podcast directement sur l'antenne sur le site de Radio Immo. Merci à Jason Pignero qui a réalisé cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle région. Très bonne semaine à tous, à très bientôt.
Merci.
L'hebdo des régions avec la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers. Une émission à réécouter et télécharger sur radio.imo, l'application mobile radio.imo et tous les agrégateurs de podcasts.